nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, d'abord je voulais m'excuser pour ce sermon qui est un petit peu décousu parce que j'avais préparé un sermon pour une prise d'habit qui n'a pas lieu finalement. Donc j'essayais de me rattraper aux branches un peu comme je peux. Alors, aujourd'hui c'est donc la fête du bon pasteur, la solennité du bon pasteur, et il faut bien nous faire comprendre l'importance de ce bon pasteur. L'Église a choisi pour la fête du bon pasteur et également pour la fête du dimanche dans l'octave un évangile justement sur la miséricorde du bon Dieu. Le bon pasteur est certainement la plus belle image, le plus beau signe de la miséricorde du bon Dieu. Je pense qu'il y a deux images extraordinaires qui se retrouvent dans les textes sacrés d'aujourd'hui. D'une part le bon pasteur et d'autre part évidemment le Sacré-Cœur. Alors, essayons de voir un petit peu quel est le rôle du bon pasteur. C'est explicité dans l'évangile du troisième dimanche après la Pentecôte, qui est donc l'évangile dans l'octave. Voilà un verger qui a une centaine de brebis et qui, tous les jours, sort ses brebis dans la montagne pour leur donner des bons pâturages. Et tous les soirs, il ramène ses brebis au bercail. Il les remet dans la bergerie et il les compte toutes les soirs pour être sûr qu'elles sont toutes là. Et un jour, il se rend compte qu'il y en a une qui manque. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lâche tout. Et il va chercher la brebis qui manque. La brebis qui manque, c'est en général la brebis qui n'était peut-être pas la plus sage. Une brebis qui était toujours en train de se plaindre, une brebis qui était toujours en train de faire du mauvais esprit, que sais-je. Eh bien, il la ramène sur ses épaules. Et il fait une grande fête parce que la brebis était perdue, la brebis est retrouvée. On trouve plusieurs images, un petit peu dans le même style, dans l'évangile, dans les saints évangiles. Alors, essayons de voir un petit peu quel est le rôle du bon pasteur. Bon pasteur, évidemment, c'est d'abord le pape. Le pape est le bon pasteur par excellence. Ici-bas, non, au ciel, bien sûr, le bon pasteur, c'est d'abord notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est maintenu ici-bas sur terre justement par le sacerdoce. Donc le prêtre c'est le bon pasteur, le père de famille, la mère de famille doivent être aussi des bons pasteurs pour leurs enfants. Donc question de voir quel est le rôle de ce bon pasteur, j'ai trouvé trois mots qui me semblent expliciter ce rôle: guider, protéger, nourrir. Guider, protéger, nourrir. Le premier rôle du bon pasteur c'est de guider. Guider où? Guider vers le ciel. La cause finale de notre vie ici-bas, c'est le ciel. Nous sommes créés pour cela. Nous sommes créés pour louer, honorer, servir Dieu et un jour sauver notre âme. Et donc, le bon pasteur est celui qui va nous guider pour nous maintenir dans le bon chemin qui mène au ciel. Et le chemin qui mène au ciel n'est pas un chemin qui se fait gravir en quelques minutes, c'est un chemin qui dure plusieurs années. Et donc, il y a plusieurs évidemment branchements sur ce chemin. Et il y a des bons pâturages et des mauvais pâturages, et des bons chemins et des mauvais chemins. Mais l'Église a toujours dit que ces mauvais chemins, ces mauvais pâturages, représentent les hérésies. Représentent justement l'enseignement de l'Église, l'enseignement contraire à celui de l'Église. Et donc le rôle du pape, le rôle des supérieurs religieux, le rôle des prêtres, c'est d'abord de garder le troupeau, c'est-à-dire les fidèles, dans le bon chemin, sur le bon chemin qui mène à la vie éternelle. Le chemin qui mène par la vie éternelle est un chemin évidemment qui va être bordé, si vous êtes à droite et à gauche, par des hérésies. On voit très bien, dès le début de l'histoire de l'Église, dès que notre Seigneur Jésus-Christ commence à enseigner la vérité catholique, tout de suite, sitôt après sa mort, dès le premier siècle, déjà il y avait des hérésies sur le sujet. Prenez par exemple le cas de l'incarnation. L'union entre Seigneur Jésus-Christ de double nature. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu, vraiment vrai homme, à la fois Dieu, à la fois homme. Évidemment, tout de suite, il y a eu des hérétiques d'un côté et de l'autre. On le voit très bien. Soit ceux qui poussaient trop sous l'humanité, notre Seigneur, et qui oubliaient sa divinité. Soit ceux qui, au contraire, poussaient trop sous la divinité, sur l'humanité, oubliaient la divinité. Et donc, le pape, c'est lui, en principe, c'est son rôle. Et le rôle du pape, c'est de conserver le dépôt de la foi. Conserver le dépôt de la foi, pourquoi? Pour conserver le dépôt de la foi, afin que, justement, les brebis restent sur le bon chemin, sur les bons pâturages, et qu'elles évitent les hérésies. Alors comment pouvons-nous, justement, Accepter d'être guidé, surtout aujourd'hui, par le bon pasteur, eh bien, c'est le rôle des études. Les études sont absolument fondamentales. Il n'y a rien de plus grave qu'une intelligence qui va de travers. Il est bien plus grave d'avoir une intelligence qui marche de travers, qui fonctionne de travers, qu'une volonté qui fonctionne de travers. Les volontés qui fonctionnent de travers, on peut arriver avec la grâce du bon Dieu à la remettre sur, le bon chemin. Une intelligence qui travaille de travers, c'est une intelligence qui est extrêmement difficile à redresser. C'est comme, si vous voulez, un arbre qui a poussé de travers. Il a poussé de travers et après on peut plus arranger les choses, c'est trop tard. C'est comme un papier, si vous voulez, un autre exemple qu'on donne souvent, c'est une feuille de papier que vous pliez en deux, vous marquez bien le pli. Vous avez beau faire, le pli reste toujours. Vous pouvez lisser la feuille de papier des dizaines de fois, vous pouvez même la passer au fer, il reste toujours le pli. C'est la même chose pour l'intelligence. Et l'intelligence, c'est quand même la première protection naturelle que le bon Dieu nous donne. Pourquoi nous a donné l'intelligence? Justement pour nous protéger, pour que nous puissions garder les deux pieds sur, en tant qu'âme, garder nos âmes sur le bon chemin, celui qui mène à la vie éternelle. Alors le démon va tout faire pour détruire cela, justement, parce qu'il sait que lorsqu'une intelligence est cassée, lorsqu'une intelligence est salie, lorsqu'une intelligence est détruite, eh bien évidemment, il est pratiquement impossible dans ce cas-là d'atteindre le vrai, qui est l'objet formel de l'intelligence. On le voit très bien aujourd'hui comment le gouvernement actuel de France, malheureusement, a fait tout son possible pour justement essayer de casser les intelligences. Et pour être sûr de casser les intelligences, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le gouvernement, on voit très bien, le monde moderne va empêcher les pasteurs légitimes d'agir. Quels sont les pasteurs légitimes des enfants? Les parents. Et comme les parents ne font plus leur travail la plupart du temps, bien évidemment, les âmes des enfants partent n'importe où. Donc il est très important, mes bien chers frères, justement, pour les parents d'avoir une union très forte pour justement protéger l'intelligence des enfants. Pourquoi croyez-vous, par exemple, qu'ils poussent les enfants à être en train de jouer avec des petits jeux vidéo à longueur de journée? C'est parce qu'ils savent très bien que si l'intelligence de ces enfants est vidée, en quelque sorte, est remplie de choses superficielles, il n'y a plus de place pour les choses importantes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Et c'est impératif aujourd'hui, justement, d'aider, en quelque sorte, en tant que personne ayant charge d'âme, ce qui est le cas du prêtre, mais c'est aussi le cas des parents. Il est impératif que les parents, justement, qui ont compris ces choses-là, se battent pour former intellectuellement leurs enfants. Empêcher le démon de travailler pour détruire ses intelligences. Donc le démon va détruire d'abord les familles, parce que la famille, c'est le guide naturel des enfants. Et une deuxième chose que va faire le démon, c'est de détruire les moyens avec lesquels l'intelligence fonctionne. J'ai souvent parlé de ça dans les cours du jeudi, mais c'est très important à comprendre. L'intelligence, pour pouvoir fonctionner normalement, va utiliser des moyens. Si on détruit ces moyens, on ne peut plus arriver à la fin. Les moyens que utilise l'intelligence pour travailler normalement, ce qu'on appelle les premiers principes. Alors, surtout le principe de non-contradiction et le principe de causalité. Et donc, une fois que le démon a détruit ses moyens, ce moment, il n'est plus possible pour les enfants d'utiliser leur intelligence. Alors, à ce moment-là, le démon, évidemment, peut les mener absolument où il veut. Le principe de causalité, c'est quoi? Expliquer qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Aujourd'hui, on essaie de faire croire que les choses arrivent sans être causées. Il peut y avoir des effets sans une cause, c'est impossible. Deuxième principe, c'est le principe qu'on appelle le principe de non-contradiction. Qu'une chose ne peut pas être et son contraire en même temps. Dans le monde moderne, il y a des contradictions constantes. Pourquoi ces contradictions constantes? Justement pour déphaser les intelligences des enfants et surtout les empêcher d'utiliser normalement les premiers principes. Alors le rôle du bon pasteur, c'est d'abord ça, de guider les enfants, guider les adultes aussi, guider tous nous qui sommes catholiques dans le monde moderne, nous guider pour justement nous garder sur le bon chemin. Et les brebis ne sont pas simplement les enfants, les brebis du qui suivent le berger, c'est tous les catholiques tout simplement. Et donc il y a une nécessité pour nous d'étudier absolument notre catéchisme, connaître notre catéchisme pour nous protéger. C'est évident que quelqu'un qui ne connaît pas son catéchisme ou qui l'a étudié de façon très superficielle aura beaucoup de mal à se garder dans le bon chemin. Donc le rôle du bon pasteur, c'est d'abord ça, guider d'abord par des bonnes études. des bonnes études, pas simplement des bonnes études intellectuelles, mais aussi des bonnes études spirituelles, afin justement de comprendre ce qui se passe, bien garder le catéchisme, et puis connaître nos ennemis. Quand on veut se protéger contre les ennemis, il faut connaître leur façon d'agir. On étudie leur mœurs, on étudie leur façon d'agir justement pour nous protéger. Le deuxième rôle du bon pasteur, c'est pas simplement de guider vers le ciel, donc guider par les études, mais aussi de protéger les âmes, protéger les brebis. Il y a des ennemis des brebis. Il peut y avoir des loups, il peut y avoir des aigles qui vont essayer de venir prendre dans leur serre les petits agneaux qui viennent de naître. Et donc, il faut une protection pour chacun d'entre nous. Quelle est la protection, justement, que le bon pasteur va nous donner, notre Seigneur Jésus-Christ va nous donner, afin que nous soyons capables d'éviter les pièges du démon? Eh bien, cette protection, à mon avis, c'est la sainte confession, le sacrement de pénitence. Un enfant qui se confesse régulièrement, un adulte surtout encore plus, qui se confesse régulièrement, sera un adulte qui va, avec la grâce du bon Dieu, arriver à garder le bon cap, parce que justement, il se protège. On dit qu'un homme est grand lorsqu'il sait se mettre à genoux. Et un homme, au contraire, se diminue, devient tout petit quand il est incapable de se mettre à genoux. La première condition pour justement être protégé par le sacrement de pénitence, c'est savoir se mettre à genoux et dire au bon Dieu, « Mon Dieu, pardonnez-moi parce que je suis un pécheur. Ayez pitié de moi parce que j'ai péché. » C'est comme ça qu'on commence toutes les confessions. « Pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. » Et avec une accusation pleine et entière de nos fautes, avec l'accusation, bien sûr, mais aussi la réparation et la contrition. Eh bien, la meilleure façon de protéger notre âme, c'est de raffermir notre âme, c'est l'utilisation fréquente des sacrements de pénitence. On voit dans l'histoire de l'Église, certains saints qui se confessaient tous les jours. Bon, certes, c'est peut-être un excès, on n'a pas forcément besoin de se confesser tous les jours, mais bon, je pense qu'on a besoin, par les temps qui courent, au moins de se confesser une fois par mois, ça me semble un minimum, et même plus souvent si c'est possible. Encore une fois, un homme ou une femme qui est capable de se mettre à genoux et dire au bon Dieu, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché, qui commence à s'accuser avec humilité de ses fautes, et quelqu'un qui va tout de suite recevoir une cuirasse en quelque sorte, un bouclier de protection pour pouvoir lutter contre les tentatives du démon. Et donc, il faut faire un peu notre examen de conscience. Est-ce que j'utilise souvent le sacrement de confession? Est-ce que je sais me mettre à genoux pour demander pardon à mon Dieu et me renforcer afin de ne pas retomber dans les mêmes fautes? Le troisième rôle du bon pasteur, pas simplement de guider par les études, de protéger par le sacrement de pénitence, c'est également de nourrir les âmes. Nourrir les âmes, mettre les brebis, placer les brebis dans un bon pâturage. Et cette nourriture des âmes, évidemment, c'est une nourriture eucharistique, à savoir le Saint-Sacrement, le sacrement de la Sainte Eucharistie. Donc il ne faut pas simplement préparer nos âmes, leur montrer le but à atteindre, le chemin du ciel par les études, surtout l'étude du catéchisme. Il faut, en plus de ça, protéger nos âmes par le sacrement de pénitence, mais il faut aussi nourrir les âmes par le sacrement de la Sainte Eucharistie. Donc communier souvent. Communions bien sûr en état de grâce, mais communions suffisamment souvent justement pour élever notre âme, renforcer notre âme, pour que notre âme puisse s'élever, puisse devenir un arbre merveilleux avec des fleurs odoriférantes, des fleurs extraordinaires, pour qu'elle puisse offrir au bon Dieu. Et on voit très bien comment le démon, si vous voulez, empêche cette croissance des âmes vers le bon Dieu. C'est là que les anciens, les pères de l'Église, d'une belle image qu'ils utilisaient, qui est connu, ils disaient une âme c'est comme un tournesol. Le tournesol, on dit que la fleur du tournesol tourne sur sa tige pour toujours présenter sa face vers le soleil. Et les pères de l'Église utilisaient très souvent cette image du tournesol pour expliquer qu'une âme d'un catholique doit être comme un tournesol. On se tourne autour du soleil, ce soleil de justice, c'est notre Seigneur Jésus-Christ bien sûr. Donc autour de la journée, il faut savoir tourner notre âme pour que notre âme puisse toujours suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, suivre les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ, suivre la volonté divine. Si au contraire, je reste fixé sur ma tige en refusant de suivre la lumière du soleil de justice qui est notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment, mon âme va dépérir, elle va finir par mourir. Donc il faut demander, mes bien chers frères, au bon Dieu de savoir se nourrir nos âmes. Ce qu'on fait, c'est souvent, communier souvent, surtout aujourd'hui. Encore une fois, nous ne vivons plus dans un état normal des choses. Nous sommes orphelins d'autorité, ce qui n'est pas évident du tout. Et les conséquences sont terribles pour chacun d'entre nous. Mais on n'est pas simplement orphelin d'autorité. Même si on est orphelin d'autorité, il y a au moins une autorité au-dessus, qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a indiqué la marche à suivre que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ, que nous a indiqué notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la marche à suivre du catéchisme. Catéchisme du Concile de Trente, catéchisme de Saint-Pilice. Donc ayez ces livres, étudiez ces livres, et surtout, c'est le plus important, et sans doute malheureusement la chose la plus difficile, faites aimer le catéchisme à vos enfants. Et vous avez réussi, une mère de famille a réussi à faire aimer le catéchisme à ses enfants, à ce moment-là, elle a rempli déjà la moitié de sa mission. Et c'est pas une chose facile. Pas une chose facile. Je me rappelle, quand j'étais enfant, souvent, les cours officiels de catéchisme qu'on avait à la paroisse à l'époque, le prêtre ne savait pas, malheureusement, il ne voulait pas vraiment donner un grand amour du catéchisme. On dirait qu'il présentait le catéchisme de telle façon que le catéchisme soit quelque chose de vraiment extrêmement compliqué, extrêmement pénible, je dirais, et on allait au catéchisme avec des pieds de plomb parce que justement on n'avait pas la vérité que doit nous donner ce catéchisme. Donc formez vos enfants, demandez au bon Dieu les grâces, et vous avez les grâces du sacrement de mariage pour ça, demandez au bon Dieu ces grâces pour que vos enfants aiment le catéchisme. Posez-vous cette question souvent, est-ce que mes enfants aiment le catéchisme? Et c'est parce que les enfants n'aiment pas leur catéchisme qu'ils n'ont pas suivi. Comment voulez-vous suivre quelqu'un que vous n'aimez pas? Comment voulez-vous aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Donc le catéchisme nous donne la connaissance va nous faire monter à la compréhension de Dieu vers l'amour du bon Dieu. L'amour du bon Dieu, comment se manifeste l'amour du bon Dieu? L'amour du bon Dieu se manifeste bien sûr par la vertu de charité, c'est-à-dire l'obéissance au commandement de Dieu. Et comment connaît-on les commandements de Dieu? Justement par l'étude du catéchisme, c'est comme un cercle sans fin. Donc il faut demander, mes bien chers frères, il faut demander au bon Dieu, surtout pour nous qui sommes en charge d'âme, demandons au bon Dieu de savoir guider, savoir protéger, savoir nourrir. Le catéchisme traditionnel traduit ce que je viens d'essayer de vous expliquer par trois mots tout simples. Magistère, ministère, gouvernement. C'est ça. Magistère, c'est enseignement. Le ministère, la sanctification. Le gouvernement, c'est guider les âmes vers le bon Dieu. Alors posez-nous la question, est-ce que je suis un bon pasteur? Est-ce qu'avec mes enfants, je suis un bon guide? Est-ce qu'avec la grâce du bon Dieu, tous mes enfants sont sur le chemin qui mène au ciel? Au contraire, est-ce que mes enfants, malheureusement, peut-être par ma faute, pas toujours, mais peut-être en partie par ma faute, au moins, mes enfants ont tout envoyé promener et ont oublié totalement de suivre notre Seigneur Jésus-Christ? Alors, quelle est la grande vertu qui est nécessaire pour tout cela? Quelle est la vertu qui est absolument nécessaire pour que nous comprenions notre rôle de bon pasteur? Quelle est la vertu que le bon pasteur doit avoir justement pour guider les âmes vers le bon Dieu, pour protéger les âmes et pour les nourrir? La grande vertu, c'est la vertu de l'humilité. Les pères disent que l'humilité, c'est le terreau sur lequel poussent toutes les vertus. Et l'humilité donne la charité. Pas d'humilité, il n'y a plus de docilité. S'il n'y a plus de docilité, il n'y a plus de charité. Quelle est cette docilité dont on a besoin? C'est la docilité à l'enseignement de l'Église. Et la docilité à ce que l'Église a toujours fait pendant un siècle. J'accepte justement d'avoir cette docilité. Je sais me soumettre à l'esprit d'Église. Je suis capable de dire, l'Église a fait cela, je continue de faire cela parce que c'est l'Église qui me le demande. Et bien à ce moment-là, nos enfants pourront garder plus ou moins la foi avec la grâce du bon Dieu. Mais si au contraire, je veux changer constamment les choses, si toutes les choses changent constamment, à ce moment-là, tout part à valo, et les âmes se perdent. Donc demandons, eh bien, chers frères, demandons cette vertu d'humilité qui est tellement importante. Demandons cette vertu d'humilité qui va après nous permettre même de... Si on a l'humilité, on va même pouvoir dépasser les commandements. Souvent, on a l'impression que les commandements, c'est simplement quelque chose de tristement nécessaire, en quelque sorte, et si à partir du moment où je remplis les commandements, ça va, j'ai fait mon travail. Ça ne suffit pas. Le bon Dieu nous demande d'aller au-delà des commandements, au-dessus des commandements. Au-dessus des commandements, qu'est-ce qu'il y a? Au-dessus des commandements, il y a les conseils évangéliques, il ne faut pas les oublier. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va prêcher, par exemple, lorsqu'il prêche le sermon sur la montagne? Qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il prêche aux brebis de son troupeau? Il ne va pas simplement prêcher les commandements. Il prêche les commandements comme étant, je dirais, le minimum, on pourrait dire un peu vulgairement, le minimum syndical pour se sauver, mais c'est le bon Dieu demande bien plus que cela. Il demande le minimum, à savoir les commandements, mais il veut aussi que cette âme monte au-dessus des commandements pour pouvoir atteindre justement les trois conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et que nous ne nous disons pas ce qu'on entend malheureusement beaucoup trop souvent, mais ça c'est pour les curés, ça c'est pour les religieux. C'est pas simplement pour les religieux. Les religieux sont protégés par les trois vœux de pauvreté, chasteté, d'obéissance, c'est évident, mais le bon Dieu demande l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance à chacun d'entre nous. Donc posez-nous cette question, est-ce que j'ai l'esprit de pauvreté? Est-ce que j'ai l'esprit de chasteté? Est-ce que j'ai l'esprit d'obéissance? Ou est-ce qu'au contraire, mon âme est remplie par la révolte, remplie par l'orgueil, ce qui fait que finalement, dans tout ce que je fais, je refuse de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, je me contente de répéter ce que le démon a dit avant moi, je ne servirai pas. Rappelez-vous, c'est tous ces saints qui ont réussi à se convertir avec la grâce du bon Dieu, tout simplement parce qu'ils ont fait un acte d'humilité. Parfois, il suffit d'un seul acte d'humilité. Rappelez-vous, c'est une histoire très connue, la conversion, par exemple, de Charles de Foucault. Charles de Foucault, qui était un officier français plein de lui-même, plein d'orgueil. Et il dit très bien que le moment où il était à l'église de Sainte-Victoire, je crois que c'était à Paris, et au moment où ce prêtre a pu deviner quelle âme de feu était dans ce Charles de Foucault, il a exigé qu'il se confesse. Alors qu'il était venu pour visiter l'église, pour regarder les vitraux. Et il a obligé, confessez-vous et vous trouverez la foi. Et saint, il n'est pas saint Charles de Foucault, il dit au moment précis où mes deux genoux ont touché la planche de la genouillère, j'ai retrouvé la paix et j'ai trouvé la foi surtout. Et mais c'est ce qu'il faut faire. Donc sachant nous confesser, sachant communier souvent, je pense qu'il y a deux planches qu'il faut bien connaître. La première, c'est la planche du confessionnal, la genouillère du confessionnal. La deuxième planche, c'est la planche du banc de communion. Deux endroits qu'il faut pratiquer avec assiduité, être souvent à genoux confessionnel et souvent à genoux pour recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, alors le bon Dieu donnera ses grâces. Nous demanderons, bien cher frère, à toutes ces grâces, pendant cette sainte messe, pendant cette octave du Sacré-Cœur, supplions le Sacré-Cœur de nous donner les grâces dont nous avons besoin. Méditons souvent sur les... Vous pouvez très bien faire ça pour ceux qui sont habitués à méditer un peu tous les jours. Méditez par exemple sur les différentes invocations de litanie du Sacré-Cœur. Peut-être la plus belle de ces invocations, c'est celle qui dit « Cœur sacré de Jésus, broyé à cause de mes péchés, ayez pitié de moi. » Alors, demandons justement toutes ces grâces par l'intermédiaire de la Très-Sainte Vierge Marie. N'oublions pas que ces grâces d'humilité, ces grâces d'être guidé, d'être protégé, d'être nourri par les études, par le sacrement de pénitence, par le sacrement de la Sainte Eucharistie, toutes ces grâces nous sont données par l'intermédiaire de la Très-Sainte Vierge Marie. Donc passons par elle afin justement de pouvoir nous protéger et aussi protéger nos enfants pour pouvoir un jour tous se retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.